Alors, c'est pour parler de tantrisme aujourd'hui. Parfait, soyons-nous, on peut s'asseoir. On est en forme, oui. Alors, c'est pas tantriste, hein, c'est tantrisme. Oui, parfait, moi je suis le porteur d'eau. Verso, oui.
Alors, aujourd'hui, ben, ça porte sur le tantrisme. Comme je le disais, comme j'avais dit lors de la dernière conférence, le tantrisme est originaire des Indes. Et merci beaucoup. Le tantrisme, c'est dans le tantrisme qu'on trouve la théorie des chakras. C'est vraiment l'aspect où les chakras, ces centres d'énergie-là qui sont à l'intérieur du corps humain, qui sont originaires du tantrisme, originaires des Indes. Naturellement, souvent, dans le Nouvel Âge, parfois, on passe à côté de certains aspects historiques de choses. Alors, les chakras, c'est très important, sont reliés au tantrisme. Pourquoi est-ce que je souligne ça? C'est que le tantrisme, c'est la maîtrise d'une force, une maîtrise d'une force que tout le monde possède, c'est l'énergie sexuelle. La sexualité dans notre civilisation occidentale, judéo-chrétienne, comme on dit, est un sujet de culpabilisation et un sujet assez tabou. Lorsque les Anglais ont envahi les Indes, enfin, sous forme de protectorat, ils ont amené beaucoup de bonnes choses, comme par exemple, ils ont empêché le suti, qui est le sacrifice de la veuve lorsque le mari meurt dans certaines régions des Indes. Ils ont amené des éléments de christianisme très intéressants que les hindous ont accueillis avec joie. Ça n'a pas été strictement des conquérants malfaisants. Cependant, il y a eu quelque chose d'épouvantable qui s'est produit, c'est que ces Anglais envahissaient les Indes, c'était des Victoriens, sous la reine Victoria. Et puis, les Victoriens, c'est des gens extrêmement puritains. Ils allaient même juste mettre des couvertures autour des tables, excusez-moi, des pattes de table, des pattes de chaise, des pattes de piano pour empêcher d'avoir des idées. Alors, vous voyez ces gens-là, ils arrivent comme conquérants, et puis on arrive aux Indes. On voit toute la sagesse millénaire des Indes, etc., extraordinaire. Puis là, à un moment donné, la représentation de la divinité, c'est un couple qui fait l'amour. Oh, so shocking! Alors, je veux dire, c'était vraiment à ce moment-là la vision puritaine des Victoriens, c'est que vous êtes une gang de barbares, une gang de bestiales, parce que la sexualité, il faut faire ça vite, c'est caca, c'est pas bon, c'est pas correct, et puis c'est juste faire des bébés. Alors, les maîtres hindous sont virés de bord face aux Anglais, leur ont dit, c'est quoi l'acte le plus noble qu'une femme peut faire, qu'un humain peut faire, sinon l'acte d'amour? Dieu est amour. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Quelle honte y a-t-il à représenter Dieu sous son aspect le plus sublime, qui est l'acte d'amour? Et là, ils sont tournés vers les Anglais et ont dit, c'est vous qui êtes des barbares. Vous représentez sur deux bouts de bois un homme nu, flagellé, sanguignolant, puis vous agenouillez devant ça. Là, naturellement, les Anglais ont expliqué, écoutez, là, c'est la représentation de la souffrance, le martyr, etc. Ah, interprétation. Donc, je veux dire, il y a un aspect d'interprétation que je vous demande, un aspect d'ouverture d'esprit dans ce qui va être dit. Les gens qui me connaissent depuis quelques conférences savent bien que la base de ma philosophie, de mes croyances, de mes recherches, sont basées sur ce qu'on peut appeler l'hermétisme chrétien. Je suis finalement chrétien, je crois au Christ. Cependant, il y a le Christ, puis il y a l'Église chrétienne, le clergé, etc. Il ne faut jamais oublier que ceux qui ont mis les femmes en dehors de l'Église, c'est les pères de l'Église lors du concile de Trente, là, une bande de misogynes ensemble qui ont décidé de carrément couper les ponts face à l'aspect divin féminin qui existe. Personnellement, maintenant, au niveau du tantrisme, le tantrisme, comme je le disais, il est basé sur deux éléments, le tantrisme de la main droite et le tantrisme de la main gauche. Le tantrisme de la main droite, c'est un tantrisme où il n'y a pas d'attouchement sexuel. Le tantrisme de la main gauche, il y a attouchement sexuel. Le tantrisme de la main droite n'a pas d'attouchement sexuel. Au niveau de la main gauche, à partir de l'âge de 17 ans jusqu'à 19 ans, 19-20 ans, j'ai fait partie d'une société germano-hindoue qui pratiquait le tantrisme. Le nom, c'était les compagnons du silence. Silence, non pas dans le sens de conspiration, mais silence plutôt dans le sens de tabou, je veux dire, d'incompréhension. Tu ne parles pas de ça, tu vas faire rire de toi. Puis, je veux dire, c'est quand même un sujet extrêmement délicat. Alors, j'ai pratiqué les rites tantriques comme tels, de la main gauche. J'ai pu voir des phénomènes assez particuliers. J'ai pu donc vivre des aspects du tantrisme au niveau du réveil des chakras, du contrôle de la kundalini, et puis effectivement de l'acquisition de certains pouvoirs psychiques qui sont réels. J'ai abandonné, j'ai quitté, je pratique plus le tantrisme de la main gauche. J'ai vraiment abandonné les pratiques tantriques. Cependant, la connaissance tantrique que j'ai, je veux dire, elle est là, et puis elle m'a aidé beaucoup au point de vue philosophique. Tout de suite en partant, je peux vous dire que le tantrisme, s'il y a des machos dans la salle, ben vous allez être bien mal pris, parce que le tantrisme, c'est un système qui fait l'apologie de la femme. C'est donc un système qui nous donne toute une vision différente au niveau de la divinité. Hein, dans notre société, c'est vraiment Dieu le Père avec la grande barbe jusqu'à terre. C'est vraiment basé sur la force du mal. Alors que le tantrisme, vous allez voir, même il y a un texte que je vais vous lire qui est assez particulier, où est-ce que vraiment la femme est le centre absolu du tantrisme. Parce que il y a trois dieux principaux aux Indes. Brahma, Vishnu et Shiva. Et puis, l'hindouisme, il faut le dire, l'hindouisme, pour moi, en tout cas personnellement, c'est la matrice, c'est la religion mère. Je veux dire, même si on est chrétien, il faut remarquer que le christianisme n'est pas venu comme une génération spontanée, ça a été préparé. Même Jésus, je veux dire, a fait partie d'une secte juive qui s'appelait les Esséniens, et effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Il y a eu des enseignements extrêmement particuliers, et puis juste le fait que dans la Bible, on annonçait la venue de Jésus, c'est qu'il y avait donc une réparation. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se développent. Alors, pour revenir au tantrisme comme tel, excusez-moi, j'avais perdu mon le cue, là. C'est au niveau maintenant de des trois personnes en une. OK, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. Alors, on a Brahma, Vishnu et Shiva. Et ça fait le Brahmana. Donc, l'hindouisme a aussi ce phénomène de trois personnes divines en une seule. C'est pas original des chrétiens, ça. À un moment donné, il faut savoir avoir un esprit critique. Pour moi, la philosophie, par exemple, c'est le nuage sur lequel le Christ a mis le pied pour s'élever vers les cieux. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la philosophie? C'est la critique. Alors, c'est de garder toujours un aspect critique des choses et de voir qu'effectivement, ce mystère de la religion chrétienne ne lui est pas original, mais provient effectivement des Indes. Alors, le tantrisme, c'est un système, tantrisme, ça veut dire trame, parce que dans les vieux livres tantriques, ça vient par paragraphe. Disons que moi, au niveau maintenant, je vais tout de suite mettre quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les aspects, je pourrais dire, vraiment techniques, là, parce que je ne veux pas perdre les gens. C'est ça, théologique, je ne veux pas perdre les gens. Mais il est évident que je vais faire des relations, comme la relation, si on regarde la personnalité du Dieu Krishna, on trouve des éléments tellement semblables avec le Christ que ça en est renversant. Et puis, je vais parler de la Shakti tantôt. Je vais faire justement, au niveau maintenant, je ne rentrerai pas dans les détails le technique, théologique, parce que le polythéisme hindou, pour moi, pose un problème dans le sens qu'il est polythéiste. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui nous est donné, et puis il y a un concept contraire qui arrive. Vraiment, le polythéisme hindou, c'est tellement multiple, ça prend tellement une rigueur de l'esprit, qu'à un moment donné, effectivement, des individus qui n'ont pas les capacités intellectuelles, les capacités morales d'absorber ce système-là, peuvent se retrouver complètement perturbés. Contrairement à la religion chrétienne, où on a le phénomène de la rédemption, de la connaissance du Christ qui nous permet justement de trouver un chemin sans avoir nécessairement des capacités ultra particulières. Maintenant, je veux dire, au niveau de la... pour revenir à ces trois dieux-là, ces trois dieux masculins, ils sont immobiles, ils sont inertes, ils ne peuvent rien faire sans la Shakti, l'énergie féminine. C'est l'énergie qui anime les dieux masculins. Là, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je fais beaucoup l'apologie et la défense de l'ésotérisme occidental. Je vais faire naturellement une relation entre l'Orient et l'Occident, parce que nous aussi, en Occident, on a eu notre tantrisme. Je vais plus en parler. Mais maintenant, pour faire un rapport entre la Shakti et la Kabbale, Shakti, énergie, et nous avons maintenant en Kabbale, chez les Juifs avec la grande dame, puis les bigoudis, etc., une communauté très, très, très patriarcale, on a ce qu'on appelle la Shekina, qui veut dire tendresse de Dieu. Alors, c'est-à-dire que même chez une religion aussi monothéiste et aussi dure au niveau patriarcal, nous avons aussi un aspect féminin, un aspect caché de la divinité sous son aspect féminin. Alors maintenant, la Shakti, c'est elle qui donne l'énergie. Elle est à la base de la Kundalini. Elle est située en général au premier chakra. Maintenant, alors ici, on a les trois dieux masculins. Le triangle debout. Alors ça, c'est l'étoile, la fameuse étoile de David, qui est un symbole qui n'est pas exclusif aux Juifs. Comme j'expliquais au niveau de la svastika, la croix gammée, qui n'est pas un symbole exclusivement nordique ou même exclusivement indo-européen. Alors ici, on a les trois dieux, et puis on a leur Shakti, leur composante. Shiva Kali. Alors on a la Shakti de chaque dieu qui se révèle à l'intérieur de Dieu et fait justement l'union céleste représentée par l'étoile de David. Alors maintenant, si on rentre dans un aspect très technique du tantrisme, c'est quoi le phénomène, qu'est-ce qui se passe au niveau du tantrisme pour amener l'éveil justement des chakras? Alors on a sept chakras. Un qui part au niveau de la colonne vertébrale, le deuxième au niveau du nombril. C'est sûr qu'il y a des auteurs qui vont parler de la rate, qui vont parler de ci, qui vont parler de ça. Là, je ne rentre pas dans des détails comme ça, puis je ne veux pas faire de dispute de collège. Là. Je donne quand même ce que moi j'ai appris, et puis c'est ce que je veux partager avec vous. Alors, premier chakra se trouve au niveau de la colonne vertébrale et représente les organes génitaux. Le deuxième au niveau du nombril. Le troisième au niveau du plexus solaire. Le quatrième au niveau du cœur. Le cinquième au niveau de la gorge. Le sixième, c'est le fameux troisième œil. Et le septième, c'est le chakra coronal. Le tantrisme, je veux dire, parti des Indes, OK, parce que des Indes originaient beaucoup de choses. Là. Les Hindous, je veux dire, ont pris la place au niveau de la Chine. On a Bouddha, qui est un Hindou, qui est un Indien plutôt, qui, la religion bouddhiste, je veux dire, n'a pas tellement bien fonctionné aux Indes, mais je veux dire, a rayonné en Chine. Ça provient des Indes, les fameux arts martiaux qu'on pense qui viennent de la Chine, absolument pas. Les arts martiaux sont originaires des Indes, d'ailleurs étaient représentés par la lutte des dieux. Et puis, le bouddhisme indien a traversé la Chine pour se rendre au Tibet. Alors au Tibet aussi, on a le tantrisme, on a du tantrisme particulier, un tantrisme lamaïque, qui est différencié, eux, ils ne parlent pas nécessairement de main droite, main gauche, mais parlent plutôt de bonnet rouge et de bonnet jaune. C'est la manière qu'ils ont de présenter ça. Alors, le tantrisme, maintenant, pour revenir au point de vue technique, on a dans la colonne vertébrale, ainsi que dans le cerveau, c'est plein de neurones. Là, je fais toujours un parallèle entre la science, par exemple, la science occidentale, et aussi cette science-là psychique qu'elle tantrisme. Alors, dans notre colonne vertébrale, on a plein de neurones. Dans notre cerveau, on a plein de neurones aussi. Maintenant, cette énergie-là sexuelle, par divers procédés techniques, monte le long de la colonne vertébrale, réveille ces organes-là, réveille ces centres de psychique-là, éveille la conscience. C'est pas juste le fait d'avoir un pouvoir particulier, mais c'est le fait aussi d'avoir un état de conscience, un état altéré de conscience particulier qui nous amène toujours en union avec la divinité. Alors, cette énergie-là part de la colonne vertébrale, monte le long de la colonne vertébrale et arrive au cerveau. Et puis, naturellement, je veux dire, vous imaginez toute l'énergie qui peut être déployée strictement par la part de l'énergie sexuelle. Maintenant, c'est quoi le truc? Vulgairement, là, c'est-à-dire dans le sens populaire, vulgariste, là, c'est le phénomène suivant. C'est par la rétention. Alors, je veux dire, c'est là qu'on arrive aux deux voies. La main droite, je vais commencer avec la main droite. La main droite, c'est, pour bien vous le représenter, c'est un peu comme les monastères, les abbayes occidentales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attouchement sexuel et on vit en harmonie avec la divinité, on vit en harmonie avec les préceptes de notre collège. Et puis le phénomène qui fait, c'est que vu qu'il n'y a pas d'attouchement sexuel, l'énergie concentrée le long de la colonne vertébrale, par la prière, par des mantras, des yantras et des mandalas, parce qu'il y a des systèmes de visualisation bien particuliers qui nous permettent de condenser cette énergie-là, monte le long de la colonne vertébrale et réveille les centres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extase comme telle. On va prendre le film Cocoon, juste pour vous donner un exemple. À un moment donné, quand il y en a un qui est d'un bord de la piscine, puis l'autre de l'autre bord, je veux dire, il y a un échange d'énergie qui se produit. Je veux dire, où est-ce que ces gens-là peuvent être assez enviables? Alors, il y a des moines, il y a des maîtres tantriques qui peuvent faire l'amour, mais dans des notions de l'amour qui sont absolument hors portée de notre compréhension. Maintenant, au niveau du christianisme, là, il y a certaines saintes, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, qui avait des visions incroyables. Puis quand on lit ces visions-là, un psychologue ou un psychiatre occidental dit est complètement cinglé, mais un tantrika, lui, qui revoit ces descriptions-là, comprend automatiquement que c'est vraiment le réveil de la Shakti. Alors, Sainte Thérèse voit un ange lui apparaître, elle est toute bouleversée de cet ange-là, elle sent sa présence, elle se sent consumée, éveille la Kundalini, elle se sent en harmonie, en extase, et l'ange prend une épée. Là, naturellement, je veux dire, ça va peut-être choquer certaines personnes, parce que, je veux dire, en général, dans les textes, c'est dit que l'ange lui prend l'épée dans le flanc. La vraie vision de Sainte Thérèse, c'est qu'elle a pris l'épée et lui a rentré dans le vagin. Alors, vous voyez vraiment à ce moment-là, un tantrika qui lit une description comme ça, lui, il catch tout de suite, pour dire vulgairement. Lui, il voit, c'est carrément un éveil de la Kundalini, un éveil des possibilités psychiques qu'elle avait, cette sainte-là. Au niveau chrétien, je veux dire, les chrétiens représentent, par exemple, la sainteté d'un individu avec une auréole autour de la tête. Ça, c'est le chakra coronal. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le chakra du cœur. Alors, je veux dire, on trouve aussi chez nous des cas particuliers où est-ce qu'on peut faire une relation avec le système hindou. Mais plus fort encore, au Moyen Âge, il y avait des chevaliers. Hein, les chevaliers, ça coupait la tête de tout le monde, là, ça se battait, etc. C'était des hommes très rudes. Il y a eu un phénomène qui s'est produit qui a amené, qui a calmé ces gens-là. Il est apparu ce qu'on a appelé l'amour courtois. Alors, c'est très important, c'est là que le début du tantrisme occidental. L'amour courtois, c'est l'amour des ménestrels. Alors, qu'est-ce qui se passait lors de l'amour courtois? Le chevalier se mettait aux pieds de sa dame et lui promettait qu'il l'aimerait jusqu'à la fin de ses jours et que même s'il était nu et qu'elle était nue, si elle décidait que lui la touchait, d'accord, mais que aucune forme de violence, aucune forme de persuasion de quelque nature que ce soit. Alors, dans l'amour courtois, on avait le phénomène où est-ce que le chevalier, je veux dire, ne faisait pas l'amour de façon orthodoxe à sa dame. Il était là, lui, puis il tripait sur elle, puis il écrivait des poèmes, des chansons, etc. Et puis, à un moment donné, sa dame le mettait au défi. Elle se mettait nue, et lui se mettait nu à côté, et il ne se touchait pas. Par contre, leur âme se rejoignait. Donc, il y a tout un phénomène encore d'extase qui se produisait. Mais à un moment donné, effectivement, il y avait l'union sexuelle qui se produisait entre les deux. Cet aspect-là de l'amour courtois était vraiment fondamental dans le Moyen-Âge. Il y avait même ce qu'on appelait l'affrérage, c'est-à-dire que quelqu'un qui était marié pouvait sentir un âme sœur chez un individu et faire un échange de sang. Et puis, à ce moment-là, ils étaient affrérés. Il y a un bonhomme qui s'appelle Druon qui a décrit une très belle scène d'affrérage entre Isabelle de France et Mortimer, de comte des Marches d'Angleterre, dans la Louve de France. Et puis, c'est une scène historique et qui a vraiment démontré ce qu'on appelle les amants éternels. Vraiment, qui a démontré l'union entre l'éternel féminin et l'immuable masculin. C'est vraiment ça qu'il faut chercher. Le tantrisme, c'est vraiment un système d'équilibre. C'est un système où est-ce que les associés, c'est vraiment comptable ça, là. Les partenaires sont en harmonie ensemble et sont en extase avec le divin. Dans le tantrisme, on n'a pas beaucoup de systèmes de protection, par exemple. Dans la magie occidentale, on a le cercle, etc. Dans le tantrisme, il suffit d'aimer et l'amour est un bouclier. Maintenant, si vous permettez, pour bien vous montrer l'aspect divin de la femme dans le tantrisme, je vais vous lire un texte tantrique. Alors, comme je vous l'ai dit, les machos vont... n'auraient pas dû venir, s'il y en a dans la salle. Alors, il faut toujours voir ça d'une façon, comme je l'ai dit, avec une très grande ouverture d'esprit. Parce que le tantrisme, c'est vraiment une apologie de la femme. Ça, je veux dire, un tantrika va très bien comprendre qu'en respect avec la femme, en respect avec la nature, lui va très bien comprendre c'est quoi faire l'amour avec une fleur, c'est quoi voir une roche pousser. Il va comprendre tous ces concepts-là. Alors, c'est un texte assez spécial, mais qui va nous permettre de nous introduire dans le vif du sujet, si je peux m'exprimer ici. Alors ça provient, c'est un extrait du Shakti Sangama Tantra. Il n'existe pas de joyau supérieur à la femme. S'il y a des féministes dans la salle, vous allez apprécier. Il n'existe pas de joyau supérieur à la femme. Il n'existe pas de condition supérieure à celle de la femme. Il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas d'ascèse qui puisse se comparer à la femme. Il n'y a pas. Il n'y a jamais eu. Il n'y aura jamais de lieu saint pareil à la femme. On ne peut trouver de prière semblable à la femme. À travers le corps de la femme, l'homme doit adorer la divinité en devenant divinité lui-même. C'est pas le tantrisme, c'est pas une apologie de la supériorité de la femme. Parce que si vous voyez bien la dernière phrase, c'est vraiment devenir une divinité soi-même. C'est vraiment un système qui permet d'harmoniser les relations entre les deux sexes, d'arrêter d'avoir la guerre des sexes, parce que là, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, on a deux sexes, là, je veux dire l'homme puis la femme, et puis qu'ils ne s'entendent pas ensemble. Et comment est-ce que vous voulez maintenant, avec quatre races, qu'on puisse s'entendre sur la planète? C'est impossible. Donc, le tantrisme, moi, le fait le plus important que je trouve dans le tantrisme, c'est que ça nous permet de respecter notre partenaire, ça nous permet d'échanger, puis ça nous permet de voir autre chose que... Vous comprenez? Maintenant, c'est sûr qu'avec ça, alors la femme, je veux dire, elle a le phénomène de l'initiatrice. Elle initie l'homme pour développer chez lui cette divinité. La femme, elle, quand je parle de rétention, la femme, elle, n'a pas de phénomène de rétention dans le tantrisme. Lui, l'homme, se doit de se retenir. La femme, elle peut arriver au climax tant qu'elle veut, il n'y a aucun problème, parce que de la façon qu'elle est conçue, son énergie, elle est l'énergie. Elle est comme le soleil qui se consume lui-même. Alors là, on est complètement, c'est comme je l'ai dit, c'est un système qui est complètement différent de ce qu'on a appris dans le judéo-christianisme. Je veux dire, t'enfanteras dans la douleur, puis t'es la servante de l'homme, puis etc., puis envoie-toi là, Marie, couche-toi là. Je veux dire, c'est complètement différent. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais ça en avoir un peu, là, à date, là. Excellente question. Je veux dire, c'est très, très bien comme question. Mais tout de suite, je vais dire de quoi? Parce que là, j'arrive... Tu penses que pour l'homme, c'est facile? C'est pas facile, pas en tout, mon gars. Juste, bon, là, je veux dire, comme je le dis souvent dans les, dans les... Là, je ne pratique plus le tantrisme. Hein? Donc, c'est évident que je ne suis plus capable de faire ça. Là. Ça va faire rire du monde, mais enfin. C'est sûr que dans le tantrisme, il y a un phénomène de rétention. Quand j'ai pratiqué le tantrisme, à un moment donné, il a fallu que j'ai eu un rituel, moi, qui a duré 36 heures, le rituel des cinquièmes. Pendant ce rituel-là, il y a eu l'union sexuelle qui a duré 36 heures. Mais là, je ne pratique plus le tantrisme. Hein? C'est pas... Mais c'est dur, c'est très difficile. Et puis, j'ai même vu quelque chose d'assez remarquable. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un maître tantrique, un hindou, qui était dans cette société-là. Et ce que j'ai vu, qui est absolument incroyable, c'est qu'à un moment donné, pour nous prouver la puissance de la rétention, il a pris un verre d'eau, il a mis sa verge dedans, il a aspiré toute l'eau. Ça, j'ai vu ça, mais là, il faut le faire, là, hein? Il est évident maintenant, je veux dire que je revenais à ta, je fais une petite discrétion, mais je reviens à ton. Le tantrisme qui est intéressant maintenant au niveau du tantrisme, c'est le fait que ça améliore vraiment, je veux dire, les relations. Dans le tantrisme, par exemple, les fameuses 36 positions, ça provient du tantrisme, Kama Sutra, etc. Je veux dire, il y a une manière, je veux dire, ça enrichit, ça met un peu de piment dans la vie du couple. Moi, personnellement, présentement, je ne conseille de pratiquer le tantrisme qu'en couple. Je veux dire, là, maintenant, je vais arriver au danger du tantrisme parce que les dangers du tantrisme sont très réels. Mais pour venir répondre à la question de monsieur, où est-ce que la femme, je veux dire, ni plus ni moins, elle accède à ces éveils-là, c'est tout simplement que le tantrisme, il faut le voir comme étant un art, une science et un rituel. Donc, il y a dans tout l'aspect rituelique du tantrisme, la femme, je veux dire, accède automatiquement. En éveillant le mâle, elle accède. Comme dirait Richard, en allumant le mâle, elle accède elle-même, je veux dire, à cette divinité-là. Elle est la Shakti. En faisant les rituels des 5M, parce que, je veux dire, la base du tantrisme, c'est le rituel des 5M, je vais vous les donner tout de suite. Metuna, ça c'est l'union sexuelle. Mamsa, ça c'est pour viande. Matsya, ça c'est pour poisson. Mudra, ça c'est pour céréales. Alors, on a ici l'éther, je veux dire, qui nous permet, qui est l'espace, qui nous permet d'atteindre justement la divinité par l'union sexuelle. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le rituel des 5M. Puis ça, c'est à la base de tout rituel tantrique. Si jamais vous lisez un livre sur le tantrisme, puis il n'y a pas ça, je veux dire, vous pouvez le jeter à la poubelle. Parce que c'est aussi important que l'Eucharistie dans la cérémonie de la messe. Ah, OK. Ben oui. Feu, madia, pour vin. Oui. Alors, je veux dire, ces cinq éléments-là, on l'appelle le rituel des 5 M, parce que comme vous pouvez remarquer, ça commence par un M. Alors, oui? Moudra, oui, c'est la terre, oui, excuse. Alors, justement, pour ça, quand vous lisez le livre des morts tibétains, je veux dire que les esprits de l'air ne soient pas mon ennemi, que les esprits de l'eau ne soient pas mon ennemi, alors c'est aussi basé là-dessus. C'est-à-dire que le tantrisme, c'est un système universel au niveau de la magie, où est-ce qu'on peut faire des rapports, que ce soit au point de vue cabale, ou que ce soit des rapports au point de vue, je veux dire, ésotérisme oriental comme tel. Alors, vraiment, la base des rituels tantriques, c'est ceci, c'est le rituel des 5M, extrêmement important. C'est sûr que, je veux dire, il y a des mantras qui sont dits pendant que l'homme, je veux dire, lui donne des massages. Il y a des bains, il y a des onguents, il y a des huiles, il y a des parfums. Alors, il y a vraiment tout un aspect assez extraordinaire qui fait que, justement, ça rend une union sexuelle beaucoup plus intéressant que, bon, ben, une petite vite, comme on dit, là. C'est, sauf que ce n'est pas l'idée. L'idée dans le tantrisme, ce n'est pas un moyen pour se trouver un partenaire pour faire l'amour. Sinon, ça va être un peu comme au niveau de l'aura. La meilleure façon de voir l'aura, on le dit souvent, c'est de voir un corps nu. Je veux dire, parce qu'à ce moment-là, les vêtements, je veux dire, sans vêtements, c'est vraiment l'âme de la personne qui va ressortir et non pas qu'est-ce qu'elle a accroché tout partout. Mais c'est évident qu'un petit comique qui dit à quelqu'un, écoute, moi, je voudrais voir ton aura, mais juste voir ton aura, puis finalement, c'est juste pour voir un corps nu. Bien, tout ce qu'il va voir, il va voir un corps nu. Ça va s'arrêter là. Je veux dire, si la personne est vraiment à la recherche de la spiritualité, ben ça va s'arrêter à un corps, point. Alors, si au niveau maintenant du tantrisme, la personne recherche vraiment un éveil de la conscience, recherche vraiment une capacité de rentrer avec des plans spéciaux, cette personne-là a l'outil idéal pour y arriver. Mais si quelqu'un, je veux dire, c'est juste un moyen pour, comme on dit vulgairement, s'envoyer en l'air, bien, tout ce que tu vas avoir, c'est t'envoyer en l'air. À un moment donné, tu vas te tanner. Des questions? Non, du tout. Je veux dire, la femme peut... Ben, tu prends par exemple dans le tantrisme de la main droite, je veux dire, la femme, elle est en état de rétention, veut pas, parce que, je veux dire, il n'y a pas d'attouchement sexuel. C'est simplement qu'au point de vue technique, les maîtres tantriques nous disent bien que la femme, par exemple, dans un bon, il y a un rituel tantrique, le rituel des 5M, tout se fait exactement comme il faut, puis l'homme a une éjaculation, par exemple. Là, c'est bien compliqué, il y a la respiration qu'il faut faire, puis là, je veux dire, il faut se remettre dans le mood, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. C'est très complexe. Si la femme a une jouissance, il n'y a aucun problème. C'est un simple aspect technique. Comme par exemple, il y a un autre aspect technique qui est particulier, je veux dire, au niveau de l'homosexualité, par exemple, le tantrisme n'accorde, sans aucun effet moral, je veux dire, rejette l'homosexualité masculine. C'est-à-dire que les personnes qui sont homosexuelles, qui pratiquent l'homosexualité masculine, je veux dire, ne peuvent pas pratiquer le tantrisme. C'est pas du tantrisme. Par contre, pourquoi ils acceptent l'homosexualité féminine? Deux partenaires féminins peuvent accéder à l'extase tantrique. Ça, c'est des points techniques, strictement. C'est ça, moi, je vous donne des aspects des Indes comme telles. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça vient pas de moi du tout. Ça, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, c'est une autre culture, donc chaque personne a sa vision des choses. Mais au point de vue technique, le tantrisme entre, par exemple, ce qu'on appelle des lesbiennes, peut être possible, mais refusé à l'homosexualité masculine. Oui, par des hommes, c'est ça. Écoute, moi, je veux dire, c'est ça, je suis pas là. Moi, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est vieux de 5000 ans, là, tu sais. Moi, je présente le tantrisme, c'est peu connu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rencontré des maîtres tantriques, puis je veux dire, moi, personnellement, je suis pas homosexuel. Mais je veux dire, j'ai posé la question, je veux dire, comment, pourquoi? Ils m'ont simplement dit, c'est un aspect technique. Oui, mais oublie pas, il y a une chose, c'est que le tantrisme, c'est un moyen technique aussi. Le tantrisme, c'est une technique. OK? Faut voir, quand même voir ça. Il y a un aspect scientifique dans le tantrisme. Le développement le but du tantrisme, premièrement, le tantrisme détourne quelque chose. Tu as l'instinct sexuel pour faire des bébés. Les humains détournent, je veux dire, l'instinct sexuel, c'est pour faire des bébés. Point final. C'est pour ça le sexe, là. Faut pas chercher une midi à 14 heures, c'est pour faire des bébés. C'est la reproduction. Point. L'espèce doit survivre. L'humain détourne cet aspect-là par le plaisir. OK? Maintenant, du plaisir, de l'énergie que le plaisir a provoqué, le tantrisme fait un système qui permet d'accéder à la divinité, d'accéder à des pouvoirs occultes. Le tantrisme, donc, c'est un moyen détourné, je veux dire, qui détourne l'instinct de base sexuel. Oui, je suis d'accord, sauf que naturellement, je veux dire, vu que je suis un occidental, je veux dire, j'ai posé la question à des maîtres, maîtres tantriques comme tel, je veux dire, parce que, bon, pourquoi, est-ce que c'est un aspect discriminatoire face à l'homosexualité masculine? J'aurais posé la question. Ils m'ont dit non. tu as le droit de faire ce que tu veux. Les autres sont pour la liberté dans le monde. Sauf qu'au point de vue technique, c'est non. Il y a un bonhomme qui s'appelle Aleister Crowley. Je vous ai souvent parlé de lui. C'est un bonhomme qui est assez, je vais vous donner un peu lui, je veux dire Crowley. Ça a été un des premiers initiés tantriques qu'il y a eu. Okay? Vraiment, lui, c'était un des premiers. Il a été aux Indes, il a eu son tantrisme, etc. Là, il est revenu en Angleterre, puis Crowley, c'est un magicien, je veux dire, qui était lumineux, mais après ça, qui est devenu ce qu'on appelle un Black Brother, un frère noir. C'est un individu assez épouvantable, mais par contre, je veux dire, du point de vue technique, là, sa magie est très, très, très forte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de prendre dans Crowley qu'est-ce qu'il y a à apprendre, je veux dire, il arrive à des phénomènes magiques très forts. Lui, je veux dire, il a rejeté ce que disent les maîtres tantriques, puis a inventé un système où est-ce que l'homosexualité est masculine. Il l'a appelé, c'est pour vous dire, la satire du bonhomme, il l'a appelé « rite de Jésus-Christ ». Parce qu'il a dit qu'il fallait bien mettre Jésus-Christ quelque part dans son système, sinon on en ferait un diable. Alors, sauf que, bon, je veux dire, Crowley, c'est Crowley, là. Puis, ce bonhomme-là, je veux dire, la fin de sa vie est loin d'être joyeuse. Bon, au point de vue carrément technique, les maîtres tantriques rejettent l'homosexualité masculine et rejettent aussi un autre phénomène au point de vue physique, c'est-à-dire, j'ai posé encore la question, il n'y a aucune valeur de morale là-dessus, c'est au point de vue pratique, ils rejettent la sodomie. C'est-à-dire que la rite, par exemple, c'est vraiment l'accord entre l'organe sexuel de l'homme et l'organe sexuel de la femme que la montée d'énergie se fait. Si un homme, par exemple, sodomise une femme, en pensant faire du tantrisme, dans le but de faire du tantrisme, forget it, là je parle au point de vue technique, là, je parle d'aucun point de vue moral, c'est rejeté. Si les gens veulent se faire du plaisir, ils se font du plaisir, mais ils ne font pas du tantrisme. Point. C'est ça que je veux dire. Justement, ici, il y a une phrase du Tao, parce que dans le Tao aussi, hein, le yin et le yang, je veux dire, ça aussi, tu as toute une iconographie, je veux dire, sexuelle qui est reliée à ça. Alors, voici ce que disent les Chinois. Lorsque les organes sexuels des deux partenaires sont en étroite relation et que le nerf secret du lotus de la femme est inséré dans le canal de l'urtère, l'énergie de la sagesse accomplie de l'homme et l'énergie de la sagesse accomplie de la femme passe de l'un à l'autre. Toute dualité disparaît alors pour accéder à l'unité de la vacuité du moi. Si on fait un rapport maintenant avec les Grecs. Les Grecs, je veux dire, à un moment donné, disaient qu'il y avait un seul sexe à la planète, qui était les deux. Les deux sexes étaient en un. Okay? Puis les dieux, à un moment donné, étaient jaloux parce que les humains étaient heureux. Donc, ça n'a pas d'allure. Il faut faire de quoi? Ils sont heureux. Alors, ils ont décidé de séparer les sexes. Alors, on est toujours à la recherche de l'âme sœur. Donc, c'est évident que dans le tantrisme, on a tout le phénomène de l'âme sœur, tout le phénomène de l'autre, où est-ce que justement, qui nous permet d'accéder à quelque chose de bien particulier. L'éternel féminin avec l'immuable masculin. Des questions? Oui? OK. Je suis bien content que tu poses cette question-là. Là. Ça me donne du souffle pour justement parler du danger du tantrisme. Okay? Dans un autre, tout de suite après, je vais faire la différence entre tantrisme et magie sexuelle. Maintenant, au niveau individuel, oui, les maîtres tantriques, je veux dire, sont d'accord avec des techniques individuelles pour accéder à l'énergie cosmique, etc. Par exemple, je veux dire, un des grands tantricas mondiaux, je veux dire, un sage incroyable, je veux dire, son nom, c'est Ramakrishna. Je veux dire, Ramakrishna, ça, je veux dire, j'ai dit chapeau, c'est un des plus gros, des plus grands tantricas, c'est un adorateur de... Enfin, un adorateur, pas un tube, là, c'est une manière de parler, là, c'est pas non plus un sectaire, disons, c'est un prêtre de Kali. Et puis, je veux dire, il y a toutes les techniques, voici effectivement, lui, c'est un de la main droite, et puis lui, je veux dire, tout seul, s'est mis en relation avec la divinité, avec les plans divins. Au niveau de la main droite, il n'y a aucun problème, c'est le phénomène de la rétention. Alors, je veux dire, l'aspect qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de d'accouplement, il n'y a pas non plus de masturbation. OK? Il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a rien, aucun attouchement comme tel. Visualisation de yantra, de mantra et de phénomènes divinatoires. Par exemple, lui était devant la statue de Kali et il rentrait en extase, il rentrait en transe. Alors oui, on peut individuellement pratiquer le tantrisme. On peut aussi pratiquer le tantrisme de la main gauche individuelle. Les mains tantriques parlent à ce moment-là de masturbation, etc., etc. Et puis, où est-ce qu'effectivement, je veux dire, il y a une union avec l'idole, on va parler de Kali, par exemple, parce que Kali, c'est vraiment, je pourrais dire, la grande initiatrice dans le tantrisme, avec Shiva. Puis justement, au niveau de Shiva, je fais un petit aparté. Shiva, c'est un dieu qui, je veux dire, est souvent représenté de couleur blanche, mais sauf qu'il faut penser que son intérieur est noir. Je veux dire, dans l'hindouisme, vous avez ceci de particulier, vous avez toujours la dualité. Kali, extérieur noir, représentant la nuit, mais je veux dire l'intérieur blanc aussi, présentant toute la compassion qui existe. L'hindouisme est vraiment la mère, parce que l'hindouisme est la mère du système du yin du yang. Je veux dire, c'est de l'hindouisme qu'arrive la dualité et l'union entre les contraires. Alors maintenant, je veux dire, Shiva, comment ça se fait qu'il est devenu blanc? Ben c'est parce que Mani est en train de méditer. Hein, il méditait. Et puis là est arrivé Kama, le dieu de l'érotisme, qui cherchait à venir troubler la méditation de Shiva. Shiva a ouvert son troisième œil et a réduit Kama en cendres, et ce sont les cendres de Kama qui sont sur son corps. Donc, je veux dire, on voit encore un aspect où est-ce que le tantrisme, ce n'est pas de l'érotisme. Très important. Maintenant, au niveau des dangers. Moi, j'ai arrêté de pratiquer le tantrisme parce que, je veux dire, c'est au niveau de la rythme. Au niveau de la rétention, il y a ceci de bien particulier. Je veux dire, la culture hindoue, le tantrisme provient vraiment de la culture hindoue. Donc, c'est évident que, je veux dire, tout le rituel des cinquièmes, le phénomène de la rétention, etc., le rituel comme tel, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on a aussi des positions sexuelles, magiques à faire avec les signes astrologiques. La journée, etc., c'est quelque chose. Là. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là, je ne fais que vous le présenter, le tantrisme. Alors, je veux dire, toutes ces choses-là sont faites pour les hindous. Maintenant, nous autres ici, là, quelqu'un, par exemple, qui est célibataire, qui décide de pratiquer le tantrisme, c'est le phénomène de la rétention. Alors, il pratique le tantrisme de la main gauche tout seul, masturbation, rétention, etc., etc., etc. Aux Indes, je veux dire, les femmes sont habillées de tuniques chatoyantes, comment est-ce qu'on appelle ça encore, des saris, etc. Tout le kit, là. Je veux dire, c'est une civilisation qui n'est pas basée sur la compétition, puis c'est ça. Ici, le bonhomme, ça fait 3 mois qu'il se retient, puis tatati, il fait des trucs avec des idoles, il fait des trucs un peu dangereux au point de vue psychologique. Il est en rétention, c'est fatigant, il se promène dans la rue, il voit ça, ces belles filles-là, il ouvre la TV, ça va mal, quelque part. Donc, il y a un phénomène de déviation qui peut se produire dans le tantrisme, vécu en Occident. Moi, je conseille personnellement et vraiment que le tantrisme soit fait par des couples, okay, des gens qui soient mariés là, ou en union de fait, ou est-ce que l'autre partenaire, je veux dire, peut... Je veux dire à l'autre, hey, bonhomme ou madame, là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu es en train de dérailler. On a l'autre, la complicité avec l'autre qui nous permet d'empêcher les accidents psychologiques qui peuvent se produire. Alors que quand tu es tout seul, je veux dire, c'est dangereux. C'est drôlement dangereux. Et c'est pour ça que maintenant, je vous introduis à ce qu'on appelle la magie sexuelle. Dans le tantrisme, il y a effectivement des positions qui donnent des pouvoirs. Puis là, moi, quand je vous dis ça, c'est très réel. Ce n'est pas des jokes parce qu'on parle des chakras. Je n'ai pas tellement parlé des chakras. J'aimerais bien que des gens me posent des questions éventuellement là-dessus. Mais c'est vraiment ça. Les chakras donnent des pouvoirs. Moi, j'ai vraiment connu un couple. Le couple de la société dans laquelle j'ai fait partie, c'était un couple qui avait pas loin de 60 ans. Je peux vous dire qu'ils avaient l'air, si vous me croyez, ne me croyez pas, le fait est là pareil. Ces gens-là avaient l'air d'avoir une vingtaine d'années. Il y a un principe de puissance, il y a un principe de force et de magique, vraiment, là, de pouvoir occulte qui existe dans le tantrisme, qui est une source incroyable. Il y a même des gens, des auteurs comme Serge Hutin, des auteurs occidentaux, qui disent que le tantrisme peut même prolonger la vie, tout en restant jeune. Le tantrisme, on peut même faire une relation entre le tantrisme et l'alchimie. L'alchimie occidentale. Si vous regardez les planches du Mutus Liber, okay, qui est un livre d'alchimie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez toujours un homme et une femme qui font des gestes. Ça, c'est des mudras. Tout est dans tout. En Occident aussi. Sauf qu'en Occident, c'était caché. Pourquoi? Parce que quand on parlait de sexe, on se faisait couper tout. Alors, l'alchimie aussi, parce que le tantrisme, on peut le voir comme étant une alchimie, c'est une transmutation d'une force. Le foyer, le faux de l'alchimiste, c'est notre énergie sexuelle. Et puis même au niveau des textes alchimiques, vous voyez toujours parler de mâle et de femelle, et d'androgyne. Moi, je me mets toujours à la défense de l'ésotérisme occidental. On a chez nous ici, enfin je veux dire ici, en Occident, des valeurs très fortes, des valeurs qui existent. On n'a pas besoin nécessairement d'aller les chercher ailleurs. Sauf que c'est évident que dans le tantrisme, ce qui est remarquable dans le tantrisme, c'est de voir que de quelque chose qui est considéré comme coupable et bestial par notre civilisation, je veux dire, c'est un moyen d'accéder à l'amour divin. Ça, là-dessus, je dis chapeau aux hindous, c'est incroyable. Puis le fait aussi de respecter sa partenaire. Je veux dire, pour les hindous, comme vous l'avez dit, pour les hindous, pour les tantriques, OK, parce qu'il faut faire attention, je veux dire, les Indes, c'est lumière et ténèbres, hein, je veux dire, c'est pas juste, là, des gens qui se promènent, qui sont heureux, qui ont le sourire jusqu'au, OK? Il y a des, même au point de vue tantrique, au point de vue des dangers du tantrisme, on a par exemple les tubes, les adorateurs de Kali, qui font des rites absolument épouvantables, tantriques, mais c'est du tantrisme noir. Ils assassinent à des moments particuliers en l'honneur de Kali. Mais même Kali, la pauvre Kali, je veux dire, on jette bien des blâmes sur Kali. Je vais vous décrire Kali, à peu près, là, grosso modo. Là. Kali, je veux dire, de couleur noire, elle a la langue qui sort jusqu'au nombril, elle est grimaçante, elle a quatre bras, une épée, un col épée, crochet. Vous pouvez me donner un coup de main, un crochet pour les éléphants. Et puis, en tout cas, je veux dire, c'est les ongles bien longs, là. Un collier de tête coupé, une ceinture de main coupée, tout est sanguignolant, puis elle danse sur le cadavre de son mari. Yeah! What a woman! Sauf que, encore une fois, c'est toujours une question d'interprétation et de symbolisme. Les quatre mains représentent quoi? Les quatre directions, les quatre éléments. OK? Le collier de tête coupée représente simplement le fait, le détachement que l'on doit apporter, le fait qu'on est prêt à mourir pour Dieu. OK? Les mains coupées représentent les incarnations passées que l'on acquiert. Ah, ben là, c'est différent. Là. Ben, c'est ça. Il ne faut pas oublier que les hindous disaient, vous adorez deux bouts de bois avec un bonhomme tout nu dessus. C'est la même chose. C'est pour ça que moi, il y a un livre ici que je vous conseille de lire. Pour en arrêter avec, excusez-moi, là, je vais être un peu agressif, avec toutes les imbécilités qui se disent sur l'hindouisme. Hein? Je veux dire, Abou Mansé qui vient de loin, puis il y a plein de gens qui, docteur S ésotérisme ou blablabla, blablabla. Il y a un livre ici qui fait vraiment la lumière sur l'hindouisme. Il parle un peu du tantrisme, mais pas de façon systématique. C'est celui-ci, Le polythéisme hindou, de Alain Danielou. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Puis il explique très bien chaque dieu, chaque déesse, et puis il amène vraiment tout l'aspect psychique de l'hindouisme. Puis on remarque à ce moment-là vraiment que l'hindouisme, c'est une religion absolument extraordinaire. Le seul reproche que je lui fais, moi, c'est que justement, elle est polythéiste. Le polythéisme hindou d'Alain Danielou, c'est dans Buchet-Chastel. Ça, c'est très bon. Une fois que vous avez lu ça, là, vous pouvez discuter de l'hindouisme. Maintenant, le tantrisme, c'est un système pour la vie. C'est un système qui fait l'apologie de la vie, qui fait l'apologie de la joie, de l'amour, de la courtoisie. Ce Ce n'est pas un système pour maîtriser et détruire les autres. On peut le mettre comme étant un genre de religion, même jusqu'à un certain point. Par contre, il existe un aspect qu'on appelle la magie sexuelle. Il y a des gens qui ont pris des éléments du tantrisme pour, justement, strictement acquérir des pouvoirs pour dominer les autres. Pour revenir au niveau de... Je vais vous décrire une scène épouvantable. Je veux dire, comment... pour revenir à ce que tu parlais au niveau des célibataires, je veux dire, c'est quelque chose qui se pratique dans certains endroits. On dit à quelqu'un qui rentre dans la secte comme telle, en général, c'est des sectes infernales. Bon, mais c'est ça, on parle du tantrisme, surtout les jeunes, les moins jeunes, le sexe, c'est toujours très intéressant, là. C'est une des forces de l'humanité. Et puis, pour l'acquisition de pouvoir, puis une manière d'acquérir une divination, par exemple, savoir qu'est-ce qui va se passer demain ou qu'est-ce qui va arriver. Ils disent, par exemple, aux jeunes mâles, bon, mais tu vas adorer telle entité, souvent c'est Lilith. Et puis, le jeune se met à faire des représentations sur Lilith. Parce que si je dis le jeune, c'est parce qu'en général, ces sectes-là vont chercher des jeunes. Alors, l'individu se met à fantasmer sur Lilith, à fantasmer sur un aspect féminin terrible, un peu la déesse Hécate des Grecs, OK, une déesse très dure. Et puis, je veux dire, ni plus ni moins, à un moment donné, se masturbe, éjacule, son sperme tombe sur le plancher, et puis, par les dessins qui sont sur le plancher, il va savoir qu'est-ce qui va arriver. Vous voyez, donc, il y a un aspect, je veux dire, infernal qui peut être lié dans le tantrisme. Puis, comme je vous l'ai dit, il y a un aspect de déviation qui peut être fait. C'est pour ça que je conseille vraiment le tantrisme en couple et non pas célibataire. C'est très dangereux de pratiquer célibataire, homme ou femme. Moi, pour les gens qui s'intéressent, je veux dire, je conseille beaucoup le tantrisme en tant que couple. Ou est-ce qu'il y a déjà eu... C'était pas couple d'hier, là, depuis un certain temps, où est-ce qu'il y a déjà une complicité, où est-ce que les gens peuvent se parler. Parce qu'il peut y avoir des dangers. Il peut y avoir des dangers de déviance très, très, très fortes. Alors, il y a un bonhomme aux États-Unis, son nom, c'est Randolph Carter. Ça, c'est un individu qui est assez spécial, qui a utilisé des techniques particulières en faisant l'amour, des positions particulières en faisant l'amour. Puis, en se concentrant particulièrement, on pouvait acquérir des pouvoirs. Puis je veux dire, dans le tantrisme aussi, je veux dire, il y a, je vous dis simplement qu'est-ce qui est possible, là. Je veux dire, dans votre évolution personnelle, je veux dire, à un moment donné, vous tomberez sur d'autres textes, etc. Mais pour revenir au couple que je vous parlais tantôt, je veux dire, ils m'ont carrément dit que eux, si par exemple, ils avaient besoin d'argent, prenaient le temps, faisaient l'amour, se concentraient certains chakras, et puis, quelques temps après, ils avaient l'opportunité matérielle de faire ce qu'ils avaient à faire. Soit quelqu'un carrément leur arrivait, leur offrait un emploi ou leur offrait quelque chose ou les aidait. Maintenant, au niveau de Randolph Carter. Randolph Carter, c'est un mulard, donc c'était l'ami personnel d'Abraham Lincoln, c'était l'ami personnel de Ralph Lewis, impérateur de la Rose-Croix. C'était un bon gars, OK, en théorie, là. Et puis, il a écrit un livre sur la magie sexuelle. C'est un bonhomme qui a beaucoup pratiqué la magie sexuelle. Et puis, je veux dire, pour arriver à des éléments, une recherche de pouvoir très, très fort. Ce bonhomme-là, il a eu un affrontement avec une femme que beaucoup de gens connaissent sans doute. C'est Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, puis Randolph Carter, au début, s'entendait assez bien, jusqu'à temps que Randolph Carter lui présente son livre. Là, Mme Blavatsky, elle a sauté dans les airs puis est retombée. Et puis, elle a carrément dit que Randolph Carter était un être épouvantable. Ils ont commencé à faire à s'envoyer de la magie, là, des envoûtements, etc. Et puis, Randolph Carter, je veux dire, ni plus ni moins, est mort. C'est lui qui a perdu la game, là. Il est mort. Puis, je veux dire, c'est Blavatsky qui aurait gagné. Mais quelques temps après, Blavatsky, je veux dire, ses affaires ont mal été. Sauf que moi, j'ai lu en ma possession le livre de Randolph Carter. Puis je suis bien heureux d'avoir lu ce livre-là quand j'ai arrêté de pratiquer le tantrisme, parce que, je veux dire, effectivement, maintenant, je suis en accord avec Mme Blavatsky, c'est un livre absolument effrayant. C'est un livre qui vous montre des techniques, comme par exemple, on a une photographie, un portrait, comment animer ce portrait-là pour que ce portrait-là sorte de son cadre, puis venir te faire l'amour. Ça va jusque-là. Sauf que maintenant, même qu'on y croit, qu'on y croit pas, vous voyez l'obsession psychologique qui peut arriver. C'est carrément des cas de psychiatrie, cela. Ce que je veux dire, c'est que là, je suis en train de parler du danger, là. Je pas, il se trouve que c'est nécessaire. C'est pas de se garocher dans le tantrisme, allez hop, bingo, puis on va acquérir des pouvoirs. Viens-t'en, mon cher. Non, c'est vraiment une attitude psychique, une attitude mentale bien particulière. Il ne faut pas oublier, comme Dante le disait dans la Divine Comédie, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Des questions? Écoute, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça, c'est sûr et certain. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Sauf que le danger qu'il y a, c'est que c'est pas tout le monde, ça, là, tu sais. Il y en a qui vont carrément rester accrochés à la photo, là. Puis la photo va les suivre partout, là, tu sais. C'est le danger. Exactement. C'est ça. C'est comme Richard parlait quand j'ai donné ma conférence sur la magie. À un moment donné, je veux dire, c'est que ça amène des états altérés, mais il ne faut pas rester accroché là-dessus. Moi, je dis, libérez votre corps, libérez votre âme, mais n'oubliez pas votre tête. Le discernement est extrêmement important dans tout. C'est sûr que ça, je veux dire, il y a des gens qui acquièrent cette possibilité-là d'animer. Je veux dire, même Robert Charroux en parle dans un de ses livres, le livre des trésors perdus, d'un Hawaïen qui est capable d'animer des statues. Il l'anime par ce pouvoir-là, de cette manière-là. Sauf que, je veux dire, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le danger avec ces systèmes-là, c'est que justement, c'est des systèmes très élitistes. C'est pas à portée de tout le monde. Là, être rendu à faire des choses comme ça, je veux dire, tu sais, donc automatiquement, qu'un jeune peut faire, enfin un jeune, que quelqu'un peut faire, c'est prendre, par exemple, la page centrale du Playboy, puis commencer à fantasmer là-dessus, tu sais, pour que la bonne femme sorte de la page centrale, commencer à s'envoyer en l'air avec, là, tu sais. Donc, tu vois toute la psychose qui peut se produire. C'est parce que ils finissent tous mais le chien noir. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est parce que s'il n'y a pas de guidance, s'il n'y a pas un guide, OK, pour les aider, oui. Exactement. Exactement. Mais avec un guide, je veux dire qu'il connaît qu'est-ce qui se passe, là, effectivement. C'est pour ça, souvent, je reviens, souvent, en général, ce genre de pratique-là, c'est des célibataires qui vont faire ça. Exactement. C'est pour ça que je dis vraiment, le tantrisme, c'est préférable de le faire en couple. Le tantrisme, je veux dire, va amener beaucoup de richesse dans la vie du couple, mettre du piment. Je veux dire, comme je disais, les fameuses 36 positions, mais ça, il y en a bien plus que 36, là. Je veux dire, beaucoup de choses, je veux dire, vont améliorer le couple. OK? Puis, je veux dire, que l'acquisition de pouvoir ou pas, ça va juste être le fun, tu sais. C'est ça, alors que dans un couple, c'est ça, exactement. C'est très dangereux. Parfaitement d'accord avec toi. C'est parce que, je veux dire, c'est toujours les buts d'une chose, OK, qui font toute la différence, là, tu sais. Je veux dire, tu pars avec une bonne intention, tu te ramasses en enfer. Le but, c'est l'enfer, tu sais. OK? Donc, puis le comment aussi. Alors, je veux dire, l'affaire qu'il y a, c'est que si tu n'as pas une vision spirituelle très forte pour te guider, puis tu commences à pratiquer ces choses-là, moi, je peux te dire que c'est l'errance qui t'attend. Parce que, je reviens, parce que justement, je veux dire, le monde astral, le monde psychique est peuplé d'entités qui nous dépassent. Les Occidentaux ont parlé des succubes et des incubes. OK? Les succubes et les incubes, je dis, dans le tantrisme, tu as même l'union avec des entités d'autres plans. Là, c'est élevé là, quand on tombe dans ces affaires-là. Là. Tu vois ce que je veux dire? Non, quelqu'un avec un maître tantrique qui est bien guidé, OK, qui fait ce genre de pratique-là, il n'y aura pas de problème parce que ce ne sera pas une union sexuelle qui va se produire. OK? Mais par contre, quelqu'un qui, je veux dire, cherche des buts égoïstes, puis cherche l'extase pour l'extase, la jouissance pour la jouissance,